Bien, on va reprendre l'examen du cas Bororo, que j'avais commencé lors de la dernière leçon, pour examiner la façon dont se combinent au sein d'un même collectif des éléments qui paraissent renvoyer à des régimes ontologiques différents. En l'occurrence, l'animisme et le totémisme. Je m'appuyais pour ce faire sur le contraste que John Christopher Crocker, grand anthropologue spécialiste des Bororo, avait proposé entre deux modes d'existence qui animent à des degrés divers tous les êtres du monde Bororo et qui sont appelés, dans la langue vernaculaire, Aroé, A-R-O-E, et Bopé, B-O-P-E. Je rappelle donc que Aroé est une essence nominative dotée d'attributs que Crocker appelle totémiques et qui caractérise chaque classe d'êtres humains et non humains, mais qui se trouve exprimée de façon exemplaire dans des plantes et des animaux, comme dans des prototypes incarnant les attributs de chaque clan et sous-clan Bororo. Tandis que, par contraste, Bopé désigne des esprits qui sont la cause des changements, qui sont responsables de la fertilité, qui sont à la source de l'élan vital. Et j'avais consacré la plus grande partie de la leçon à examiner les propriétés des Bopé afin de montrer que ces entités, et les spécialistes rituels qui s'en occupent, représentent une illustration exemplaire de l'animisme amazonien tendu dans le cas présent entre une sorte d'échange contraint, puisque les humains alimentent les Bopé de façon à ce qu'ils s'abstiennent de leur nuire, et une prédation généralisée dans laquelle les humains occupent une position intermédiaire entre des proies perpétuelles et des prédateurs perpétuels, puisque les humains sont à la fois en position de dévorateur vis-à-vis du gibier, ils fournissent ce gibier aux Bopé, et en même temps, ils sont les victimes des agissements des Bopé s'ils ne respectent pas scrupuleusement leurs engagements à leur égard. Donc je vais considérer aujourd'hui l'autre versant de ce système de contraste entre animisme et totémisme, en me penchant sur le monde des Aroé. Et pour commencer, en me penchant sur le rôle qui joue ce que Crocker appelle des chamans, mais dont on verra peut-être que le terme n'est pas tout à fait approprié. Donc le chamanisme Aroé, pour reprendre l'expression de John Christopher Crocker, est complémentaire structurellement du chamanisme Bopé, mais il a disparu. Il a disparu chez les Bororo avec la mort du dernier chaman, du dernier chaman Aroé, en 1953. Mais comme tous les récits, tous les rituels qui concernent l'Aroé continuent en tout cas à jouer un grand rôle dans l'existence quotidienne des Bororo à l'époque où John Christopher Crocker a fait son enquête de terrain à la fin des années 60, c'est à l'époque en tout cas où il a commencé, et comme par ailleurs tous les Bororo contemporains de Crocker avaient connu le chamanisme Aroé, il est possible d'en opérer une reconstruction. Le nom du chaman, Aroé, est Aroé Etawa Are, c'est-à-dire celui qui connaît le chemin des âmes. Son nom même le différencie donc du chaman Bopé, qui lui n'est qu'un agent passif de la décontamination des nourritures Bopé. Le chaman Aroé, en revanche, possède un savoir sur les connexions entre les éléments relativement abstraits, Crocker parle d'éléments transcendantaux, que sont les Aroé, c'est-à-dire tout à la fois les ombres des ancêtres, les âmes des vivants et toutes les formes totémiques qui définissent les clans Bororo. Et les Bororo cherchent à rendre manifestes les Aroé à travers des processus symboliques, comme le port d'ornements rituels, les danses, les chants, mais ces essences Aroé sont difficiles à appréhender car elles sont très éloignées de la vie quotidienne. À l'inverse des Bopé, qui sont constamment présents dans l'univers des hommes, et les hommes essayant en permanence de circonvenir les propriétés néfastes des Bopé. Par contraste, donc, les Aroé sont très lointains, ce sont des essences évanescentes qui fonctionnent comme des principes classificatoires à travers lesquels toute chose peut être donc catégorisée, comparée, différenciée, typologisée, nommée et personnifiée. Alors, il est vrai que ces principes Aroé se manifestent également, tout comme les Bopé, dans des entités ou dans des expressions non humaines. Mais ces avatars sont en fait beaucoup plus allégoriques que les incarnations des Bopé. Ainsi, alors que l'habitat des Bopé, vous en souvenez sans doute, est très clairement assigné, il y a différents étages du cosmos céleste et la Terre, bien sûr, qui sont le lieu de résidence des Bopé, l'endroit où vivent les Aroé est indifférencié, mal défini. Les Bororo disent qu'il est quelque part sous la Terre et qu'il constitue une sorte de reflet déformé du monde réel, ce qui est une forme assez classique de définition du monde de l'au-delà, une sorte de monde insubstantiel aussi, dépourvu de procès organiques, dépourvu de temporalité, quelque chose au fond qui est assez semblable au monde des idées, à l'empirée chez Platon. Ce monde souterrain des Aroé est pourtant très structuré. Il est très structuré sur le plan sociologique. Deux villages où résident les âmes des ancêtres sont situés, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, placés respectivement sous la juridiction de deux Aroé. L'un est l'Aroé Ituboré et l'autre l'Aroé Bakororo. Et ces deux Aroé sont les âmes des deux héros culturels qui ont conçu et créé l'organisation sociale Bororo et tout particulièrement le système des moitiés. Est-ce que c'est visible ? Oui. Chaque village des ancêtres, donc il y en a deux, hein, l'un à l'ouest et l'autre à l'est. Ici, c'est la ligne de séparation qui est comme dans le village de la surface sépare les deux moitiés, la moitié du bas ici étant la moitié Tougarégué et la moitié du haut étant la moitié Exéré. Chaque village des ancêtres est donc à l'image du village Bororo, mais sans l'appareil de subsistance, puisque ce sont des êtres évanescents qui caractérisent le village Bororo. En effet, les âmes Aroé ne mangent pas, ou très peu. Elles éprouvent une grande répulsion à l'égard des nourritures Bopé en particulier. C'est la raison principale pour laquelle les âmes Aroé ne visitent jamais les villages Bororo, au contraire des principes Bopé, si vous en souvenez, qui sont constamment de façon invisible, en train de hanter les maisons. Et ces âmes Bopé donc, ne visitent les villages Bororo que lors des cérémonies et jamais dans le cours de la vie quotidienne qui, elle, est marquée par la consommation précisément de nourriture et notamment de nourriture Bopé qui leur font horreur. Entre les deux villages, donc, l'univers Aroé est divisé en 8 sections symétriques qui partent d'un point central, et chacune de ces sections est habitée par les essences Aroé, correspondant au totem de chaque clan Bororo. Alors, Sur le schéma ici, je n'ai mentionné que les totems de la moitié Tougarégué, mais c'est pour des raisons de pure commodité, parce que je ne savais pas comment arriver à répartir tous ces totems sur le schéma. Il faut savoir en effet que chaque clan, qui est donc réparti dans l'espace, dans le village, mais aussi dans le monde souterrain des Zaroé, contient entre une quarantaine et une soixantaine de totems, principalement des animaux, mais aussi des plantes, des artefacts, des éléments du relief, des races d'esprits. Alors, les essences Aroé des totems claniques constituent, je l'avais dit lors de la dernière leçon, une paire prototypique qui épuise toutes les significations et toutes les variations de l'espèce qu'elle représente. Crocker parle à leur sujet d'espèce ou d'essence nominale, car le terme Aroé peut aussi être traduit par nom. En ce sens, tout dans le monde possède un Aroé, c'est-à-dire tout dans le monde possède simultanément un nom et une essence. Et comme ces noms ont une disposition spatiale, tout dans l'univers possède un lieu cosmologique. Alors il est intéressant de noter ici, dans la perspective qui nous intéresse, que les espèces animales qui forment les aroé totémiques d'un clan ne sont pas perçues comme liées par un rapport organique, par un rapport substantiel ou par un rapport de similitude éthologique, si vous voulez. Par exemple, les aroé totémiques du sous-clan qui est, je ne les ai pas mis, il est tout en haut ici, sont le vautour royal, le nandou, le tapir, le puma, l'anaconda et le cerf des marais. Or, trois d'entre eux, à savoir le tapir, le nandou et le cerf des marais, sont aussi des espèces bopées, mais elles sont envisagées sous leur aspect aroé, c'est-à-dire comme des entités sous un aspect purement dénotatif, comme catégories différenciées, et non comme des collectivités de non-humains qui partagent des attributs spécifiques ou même qui partageraient une forme de sociabilité identique. En ce sens, le système totémique bororo paraît différer grandement du système totémique australien en ce que les membres humains et non-humains d'un groupe totémique n'ont pas en commun des attributs physiques et des attributs moraux partagés. Crocker, dans ses différentes publications, a souligné cet aspect classificatoire du totémisme bororo. Pour lui, les aroé totémiques sont anomiques, car ils constituent, au fond, guère plus qu'un réservoir de métaphores ou de signes permettant d'organiser la société bororo en segments complémentaires. Tandis que les êtres naturels bopés constituent bien une société parallèle à la société humaine. Et donc, selon l'interprétation de John Christopher Crocker, le totémisme bororo se rapproche beaucoup plus du système classificatoire mis en lumière par Claude Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui que du totémisme australien. Les espèces naturelles, toujours selon Crocker, n'y constitueraient pas le foyer d'un réseau d'identification fondé sur un partage d'attributs, mais on verra toutefois, un peu plus avant, que les essences aroées en général, et pas les seules aroées totémiques, ne sont pas aussi anomiques que cela, et en particulier si l'on examine leur fonction dans la chasse. Certains aroées ne sont pas rattachables à des espèces animales. C'est le cas, par exemple, de l'aigé, qui est une sorte de monstre aquatique décrit par les bororo comme quelque chose à mi-chemin entre le rhinocéros et le dinosaure, et qui est conçu comme l'agent de la colère collective désarroyée lorsque les hommes n'accomplissent pas leurs devoirs vis-à-vis des âmes. Les Bororo déclarent donc que chaque Aroé peut être représenté par une cérémonie dont les chants, les costumes et les actes, les énoncés divers qui la constituent, reproduisent les attributs, l'apparence et le mode d'agir de l'Aroé auquel la cérémonie est consacrée. Mais les Bororo peuvent aussi établir des rapports entre les Aroé qui ne sont pas exclusivement gouvernés par cette forme de métonymie totémique s'exprimant dans le rituel. On se souviendra en effet que les Bopé établissent leur juridiction sur tous les non-humains, à l'exception des êtres aquatiques, et il n'est donc pas inattendu que les Aroé contrôlent principalement le domaine aquatique. Ils sont aussi associés aux montagnes, aux rochers, aux éléments du milieu qui présentent un caractère de permanence et d'immutabilité. Certains animaux sont réputés manifester des qualités aroées à un tel degré qu'ils peuvent être considérés eux-mêmes comme des aroées. Il faut... Lévi-Strauss avait l'habitude de dire qu'on a longtemps retenu comme date pour le premier peuplement des Amériques la date de la civilisation de Clovis, il y a 12 000 ans, et Claude Lévi-Strauss disait une civilisation aussi complexe que les Bororo ne peut pas avoir évolué, avoir créé un système conceptuel d'une telle complexité en 12 000 ans. Il y a une beaucoup plus grande antiquité dans le peuplement de l'Amérique, ce qui a été effectivement confirmé depuis. Donc, je rappelle aussi que tous les animaux ont un aroé, y compris les bopé, et donc les animaux aroé sont simplement ceux qui incarnent le mieux l'essence aroé des choses. Ces animaux aroé, ils sont principalement donc des oiseaux aquatiques. Des oiseaux aquatiques qui se nourrissent de petits poissons, ainsi que sont réputés le faire les Amaroé dans leur village souterrain. Et ils sont souvent complètement blancs, comme le jabirou, comme la cigogne, comme le héron, ou bien ils ont un plumage contrasté où le blanc domine, comme le sterne, le pluvier, le vanneau, la bécasse, etc. Donc le blanc est très caractéristique de l'aroé, de même que la couleur dominante du bopé est, vous vous en souviendrez, le noir. Mais certains oiseaux qui exhibent un chromatisme complexe sont aussi des animaux aroés, et c'est tout particulièrement le cas des différentes espèces d'aras. Pourquoi ? Parce que les plumes d'aras sont principalement employées dans toutes les parures qui représente les aroés. Donc les Bororo pratiquent cette chose qui est assez commune dans les basses-terres d'Amérique du Sud. Ils ont des aras captifs qui leur servent de fourniture pour les plumes. Ils pratiquent aussi en partie ce qu'on appelle le tapiragem, c'est-à-dire la décoloration des plumes in vivo de façon à créer un chromatisme très grand dans les parures qu'ils fabriquent. Les oiseaux aroés ne sont jamais mangés par les Bororo, bien qu'ils puissent parfois être chassés pour leurs plumes lorsque la confection d'une parure nécessaire à un rituel en exige un très grand nombre. Donc il y a là un point d'opposition symétrique avec les Bopé. Le plumage des animaux aroé, des oiseaux, est un élément essentiel de l'interaction sociale et de la constitution de l'identité bororo dans les rituels, tandis que la chair des animaux bopé est indispensable à la vie. Donc les deux classes d'animaux sont complémentaires, L'un donne la forme sociale, l'autre donne la substance de l'existence. En ce sens, le rapport des Bororo aux animaux Aroé n'est pas conçu en termes animistes sous les espèces de la sociabilité ou sous les espèces de la connivence. Le système Aroé est bien un système catégoriel qui définit les rapports que les Bororo entretiennent entre eux plutôt qu'un système qui définit les rapports des Bororo à l'univers des essences Aroé. Si le système animiste et le système totémique se développent dans deux champs de la pratique clairement différenciés, voire antinomiques, ils manifestent pourtant un curieux parallélisme dans l'un des aspects centraux de leur mode de fonctionnement, à savoir l'instrumentalisation de certaines espèces animales pour résoudre de façon dialectique, si l'on peut dire, la contradiction du système de pensée Bororo. C'est quoi cette contradiction ? Elle prend la forme d'un paradoxe. Comment combiner le flux vital, la créativité destructrice des humains, le monde changeant des affects, de la fluidité organique, avec la, comment le concilier ? Avec la nécessité d'une permanence et d'un ordre conceptuel et social qui donne forme et durée aux événements contingents. Le système des nourritures bopées utilise le monde animal pour donner sens à l'un de ces champs de la pratique, celui de la prédation, celui du changement parfaitement symbolisé par la chasse, comme une entreprise où la mise à mort des animaux est la condition de la reproduction biologique des humains. On a vu que le système Aroé utilise aussi des animaux de manière instrumentale, en prélevant certains des éléments de leur apparence, de leur corps, à savoir leur plumage, pour confectionner des ornements et aboutir ainsi à ce que l'on pourrait appeler une sorte de surdétermination totémique. Au-delà de cette instrumentalisation, toutefois, des animaux Aroé, il existe dans le système Aroé un exact symétrique des nourritures bopées. Ce système, c'est ce que les Bororo appellent les animaux de revanche. Les animaux de revanche, ce sont des animaux qui sont tués rituellement à la mort d'un Bororo et qui servent de nourriture à l'Aroé du mort. De même qu'il y a des nourritures bopées, il y a des nourritures Aroé constituées par ces animaux de revanche. La mise à mort de l'un de ces animaux est conçue comme une vengeance, d'une certaine façon exercée par le collectif Bororo tout entier, contre l'univers des bopées, auquel vous vous souviendrez que toute mort est attribuée. Mais les animaux de revanche ne sont pas eux-mêmes des animaux bopés, car, étant trop différents des hommes, ils ne pourraient en aucune façon compenser la mort d'un Bororo. Donc, à la mort de tout Bororo, homme ou femme, ayant reçu un nom, c'est-à-dire socialisé, on va désigner un représentant de la moitié opposée à la sienne, qui sera chargé de tuer l'animal de revanche. Cette compensation rituelle, elle a été instituée par les deux héros culturels Aroé, et les Bororo la pensent comme, au fond, constitutive de leur collectif, en ce qu'elle rétablit la prééminence de l'ordre humain sur l'ordre non humain, et qu'elle synthétise l'interdépendance et la complémentarité de leur organisation très vigoureusement dualiste, disons. L'homme qui sera chargé de tuer l'animal de revanche est appelé la nouvelle âme, et il doit personnifier le défunt lors des funérailles et monter l'expédition de chasse collective par laquelle le défunt sera vengé. Et tant que l'animal de revanche n'a pas été tué, l'arrowé du mort est en colère, car il ne peut pas devenir une essence arrowé et s'incorporer au système eschatologique bororo. Donc la mise à mort de l'animal de revanche produit une nouvelle essence par la destruction d'un non-humain, mais celui-ci n'est ici qu'un déclencheur et non pas une substance, car il n'est pas ingéré. Les animaux de revanche ne sont pas mangés. Il ne s'agit donc pas d'une incorporation organique destinée à rétablir un équilibre dans le flux énergétique qui circule entre humains et non-humains, comme ce peut être le cas ailleurs en Amazonie, c'est même le cas très courant en Amazonie en contexte animiste. L'ensemble des animaux définis comme animaux de revanche est aussi clairement identifié par tous les bororo que l'ensemble défini comme nourriture bopée. Chacune des espèces de cet ensemble possède des attributs spécifiques qui seront utilisés de manière cérémonielle dans les rapports entre moitiés. Et ces attributs, ce sont, comme vous pouvez le constater ici, les parties utilisées, pour l'essentiel, des organes de préhension, des dents, des serres, des becs. Comme dans l'ensemble des nourritures bopées, il existe une hiérarchie parmi ces espèces, les plus valorisées étant, c'est assez logiquement, le jaguar et l'aigle harpie, qui sont les plus grands prédateurs dans cette partie du monde, avec l'anaconda, puis les grands félins, et enfin tous les autres. Le représentant de la moitié reçoit en compensation, c'est-à-dire celui qui fournit l'animal de revanche, reçoit en compensation des parents du défunt, en échange de l'animal qu'il apporte, une peinture corporelle très élaborée, un arc, des flèches décorées qui lui serviront dans la chasse cérémonielle où il personnifie la mort. S'il réussit à tuer un aigle harpie ou un jaguar, il recevra également des colliers, des parures de plumes appartenant au clan du mort, qu'il aura donc le droit de porter, car il assumera dorénavant certains aspects de la personne sociale du mort. Et comme il est rare que l'on puisse tuer rapidement et aisément un jaguar ou un aigle harpie, le représentant du défunt tuera un ou plusieurs animaux de revanche qu'il remettra comme compensation partielle aux parents du défunt, jusqu'à ce qu'il ait pu réellement s'acquitter de son obligation, ce qui peut n'arriver que plusieurs années après le décès de la personne dont on compense la disparition. Et lorsque cela est finalement fait, le défunt et son représentant reçoivent un nouveau nom, qui est appelé un nom de revanche, et l'arrowé du mort est enfin immortalisé. Son nom ancien pouvant enfin revenir dans le stock de noms du clan et être à nouveau utilisé pour nommer un enfant. Alors, la première question que soulève ce rite de compensation est de savoir pourquoi les animaux de revanche ne sont pas des animaux bopés, alors que ce sont les bopés qui provoquent la mort et qu'en toute logique de réciprocité, ce devrait être sur des animaux bopés que la vengeance devrait s'exercer. Il est peut-être concevable que ce ne soit pas les animaux bopés ordinaires qui sont constamment chassés, qui sont consommés tous les jours et dont la mise à mort n'aurait alors pas de grande signification. Mais pourquoi pas les deux incarnations des esprits bopés dans le monde animal, à savoir les vautours et les caïmans, qui sont les principales incarnations des esprits bopés dans le monde animal. Et je vous rappelle, pour les vautours, qui n'est pas une viande particulièrement agréable à manger, on ne les mange pas, les animaux de revanche. Eh bien, principalement parce que ces deux espèces animales sont trop bopées pour que leur destruction puisse avoir un effet compensatoire. En effet, la perte occasionnée par la destruction permanente d'un membre du collectif doit être compensée par quelque chose dont le statut soit comparable à celui d'un être humain. Or, ce n'est pas le cas de ces deux espèces emblématiques des bopées que sont les vautours et les caïmans, car l'homme est tout autant arrué que bopé, et la perpétuation de son essence nominale arrouée ne saurait être obtenue par la destruction d'un être principalement bopé. Si la compensation doit être équivalente à la perte, il faut donc la présence de certains éléments qui sont au fond caractéristiques de ce qui fait l'essence de l'homme pour les bororos. Alors en quoi les animaux de revanche constituent-ils un ensemble aux propriétés comparables à celles des humains? Les bororos répondent à cause de leurs dents et plus largement à cause de leurs appendices perforants et de leurs outils de préhension, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, des griffes, des becs, des serres, qui les rangent dans la catégorie des carnivores et des prédateurs. Le tueur d'un animal de revanche prépare un collier avec les dents ou les griffes de l'animal tué, qu'il va offrir aux parents du défunt. Quant aux serres des rapaces, elles sont accrochées à un sifflet spécialement fabriqué pour l'occasion, qui symbolise la présence continue du défunt parmi les vivants, c'est sa voix. Et le représentant du défunt joue de ce sifflet dans toutes les circonstances où il agit en son nom dans le contexte des rituels arroé. Les plumes des rapaces et les peaux des félins jouent aussi un grand rôle dans l'ornementation rituelle, et toutes les parures fabriquées avec les animaux de revanche et symbolisant d'une certaine façon ainsi la permanence du mort parmi les vivants, et qu'elles sont conservées, ces parures, avec soin, génération après génération. Donc, cette idée que les animaux de revanche sont analogues aux hommes parce qu'ils sont des prédateurs carnivores est confirmée par le fait que lorsque les bororos étaient des guerriers, ils traitaient leurs ennemis comme des animaux de revanche. Lorsqu'un bororo était tué par un autre homme, soit à la guerre, soit dans un homicide, le coupable devait être tué comme un animal de revanche, à la place d'un jaguar ou à la place d'un aigle harpy, et sa mâchoire inférieure était alors remise aux membres de sa moitié, et elle était portée en collier, à l'instar des colliers de dents de jaguar. Alors, il est vrai que tous les animaux de revanche ne sont pas carnivores, et toutes les espèces carnivores ne sont pas des animaux de revanche. S'ils sont inclus dans une catégorie unitaire, c'est parce qu'ils sont perçus par les bororos comme semblables au jaguar ou à l'aigle harpy, qui sont donc les deux prototypes, en quelque sorte, de ces animaux de revanche, en raison de leur dentition, en raison de leur bec ou en raison de leur serre. Par exemple, le duroukouli, qui est un charmant petit animal, n'est pas un prédateur carnivore, mais les bororos prétendent que sa dentition est identique à celle du jaguar. En revanche, les loutres et les caïmans, qui sont des carnivores, sont exclus car ces animaux consomment des poissons et que, selon les bororos, l'alimentation des carnivores doit être composée d'animaux à sang chaud. Enfin, l'importance qui est concédée dans les animaux de revanche au jaguar et à l'aigle harpie, comme archétype des animaux de revanche, est en grande partie tributaire du fait qu'ils sont perçus comme les seuls animaux capables de détruire un humain. Enfin, il y en a d'autres, il y a des serpents aussi, mais enfin, qui sont des grands animaux dans un combat singulier, si on peut dire. En ce sens, la mise à mort d'un jaguar est considérée comme le signe incontestable qu'un homme a atteint son point culminant de l'accumulation d'énergie vitale, ce qu'on appelle le raka, et qu'il manifeste ainsi la pleine maîtrise de sa force. Mais les dangers qui sont inhérents à la chasse au jaguar ne sont pas purement physiques. Cet animal est en effet animé et apprécié par les bopés. Et les bopés peuvent donner au jaguar la capacité d'exercer une vengeance post-mortem. C'est la raison pour laquelle sa langue, comme celle de l'aigle harpie, doivent être coupées immédiatement après sa mort et qu'une opération rituelle assez complexe doit être entreprise le plus tôt possible par le chaman bopé et le chaman arroé conjointement. Quant à l'aigle harpie, il est considéré comme la contrepartie céleste du jaguar et la traduction de son nom, Bororo, c'est le tueur d'âmes. Les Bororo prétendent qu'il peut tuer et emporter de jeunes enfants et blesser grièvement des adultes. Donc le jaguar et l'aigle harpie sont en quelque sorte des analogues dans le monde animal de la capacité que possèdent les humains de tuer leurs semblables. Quels sont les éléments principaux qui caractérisent ce spécialiste rituel des Arroé que John Christopher Crocker appelle un chaman? Le pouvoir des chamans Arroé est en quelque sorte complémentaire des pouvoirs du chaman bopé. Alors que le chaman bopé exerce une action défensive contre la malignité et le risque de contamination propre aux animaux et aux esprits bopés, le chaman arroé est au contraire chargé d'attirer les animaux bopés vers les chasseurs et vers les pêcheurs. Ainsi, il est réputé pouvoir se transformer en tapir, en pécari, en poisson, et sous cette forme, il peut soit jouer un rôle de rabatteur de gibier dans les chasses communautaires, soit même se faire tuer sous son avatar animal par ses congénères chasseurs. Ces chasses collectives se tiennent régulièrement, mais elles ne sont évidemment pas les seules formes de chasse, puisqu'elles se distinguent aussi bien des chasses ordinaires que des chasses rituelles aux animaux de revanche. On les appelle les chasses des arroés. Et elles ont justement pour caractéristique qu'on y chasse des animaux bopés grâce à l'intercession du chaman arroé qui se transforme lui-même en animal bopé. Alors la décision d'entreprendre une chasse des arroé, c'est une décision qui est prise par les chefs rituels de la moitié Tougaregué qui réunissent tous les hommes du village la veille au soir dans la maison des hommes. Vous vous souvenez, le village circulaire, l'habitat domestique en périphérie, et au centre, il y a une grande maison des hommes. Selon le type d'activité qui est envisagé, soit une battue, soit une pêche au filet, soit une pêche collective au poison, à la livrée, un type de chant cérémonial est chanté par tous les hommes, tandis que le chaman arroé est d'une certaine façon possédé, en tout cas saisi par des esprits arroé, et va avertir ces esprits de la chasse qui est projetée pour le lendemain et du type d'animaux bopés que les hommes désirent tuer. Le chaman dort par moments et il est informé dans ses rêves par les aroués du lieu de l'endroit où il va être transformé en animal bopé et le type d'animal dans lequel il sera transformé, mais aussi de la localité où le gibier sera trouvé, de tous les détails, au fond, de la chasse du jour suivant. À l'aube, et avant de débuter l'expédition, tous les hommes se réunissent dans une clairière rituelle et le chaman est à nouveau possédé par les aroués à qui il demande les mêmes informations que durant la nuit. À ce moment-là, le chaman instruit les chasseurs sur tous les détails de l'expédition, sur le type d'animal qui va lui servir d'avatar, puis il rentre au village pour dormir, et tandis que les hommes partent à la chasse. Pendant son sommeil, l'aroé familier du chaman va causer la transformation de son âme en tapir, en pécari, en poisson-chat, et va faire parvenir l'animal jusqu'au lieu où se trouvent les chasseurs ou les pêcheurs. Donc le chaman tapir va se précipiter vers la personne qui lui a donné le tabac avec lequel il est rentré en transe le matin même, et le chasseur va lui décocher une flèche. Le tapir blessé s'enfuit dans un taillis ou dans une petite rivière et les chasseurs s'abstiennent de le poursuivre. Et l'aroé familier du chasseur va extirper ensuite du tapir l'âme du chaman, va soigner sa blessure, va rapporter l'âme dans le corps endormi du chaman dans le village. Puis les chasseurs vont aller à la recherche du tapir, qui est mort maintenant et qui est complètement ordinaire. Ils vont le ramener au village, ils vont le confier au chaman bopé pour qu'il le décontamine et pour qu'il le rende comestible. C'est plus compliqué que d'acheter des steaks au supermarché. De la même façon, le chaman est apte à transformer les plumes de certains grands oiseaux aquatiques en poissons avant les expéditions de pêche à la livrée et de pêche au filet. Il se transforme lui-même en une sorte de poisson pilote qui va attirer les autres poissons vers les filets et vers les nasses des pêcheurs. Il peut aussi créer de façon magique des pécaris et se métamorphoser parmi eux afin de les amuser par ses pitreries, afin de distraire évidemment leur attention, tandis que les chasseurs approchent. Et enfin, et bien que les pouvoirs de contrôle du chaman aroé sur le gibier se limitent au tapir, au pécari et à trois espèces de poissons-chats, il lui arrive aussi de pouvoir rabattre du gibier bopé vers un chasseur solitaire ou un très petit groupe de chasseurs qui lui en fait la demande. Après une chasse collective aroée, le chaman aroé rentre à nouveau en transe et les aroés fument, boivent de l'eau sucrée à travers sa personne en remerciement des bons résultats de la chasse. Et à leur tour, ils assurent les chasseurs de leur bienveillance et leur promettent aide et assistance dans des chasses futures. Le travail du chaman aroué ne se cantonne pourtant pas à ce rôle de rabatteur et de pourvoyeur du gibier, parce que tout comme son confrère bopé, il guérit aussi des afflictions qui sont engendrées par des offenses commises vis-à-vis des aroués. La plus grave de ces offenses, elle consiste en un rapport sexuel avant, pendant ou après la participation à une cérémonie dédiée aux Aroé. La gravité de l'affliction dans ce cas dépend de l'importance et du statut du contrevenant dans le rituel en question. Cette interdiction de la sexualité, elle tient essentiellement au fait que la sexualité manifeste de façon exemplaire le principe du raka, le principe de l'énergie vitale, et que le raka est complètement antithétique avec la juridiction des Aroé, à savoir avec ce domaine des catégories nominales. Le raka, c'est un principe de créativité, de reproduction organique, tandis que les Aroé assurent la permanence des principes qui fondent symboliquement le collectif. Alors, la forme la plus commune de maladie provoquée par les Aroé est appelée aké, c'est une espèce d'état de faiblesse, de lassitude généralisée, une sorte d'anémie qui peut se conclure par la mort prématurée. Et ces symptômes sont par ailleurs tout à fait caractéristiques de la perte progressive de raka, d'énergie vitale, ce qui signifierait au fond que les Aroé ont la capacité de réduire le stock de raka, d'énergie vitale, d'un individu qu'ils désirent punir. Techniquement, cette réduction elle est causée par des substances pathogènes qui viennent se loger dans le corps et qui sont associées à l'univers Aroé, parce qu'ils sont associés aux parures que l'on arbore dans les cérémonies Aroé, du duvet, de la résine au moyen duquel on colle le duvet sur le corps, des feuilles, des cosses et des feuilles de roucou, et différentes autres substances qui sont utilisées pour la confection d'objets rituels. En dehors de ces fonctions chamaniques classiques, le chaman Aroé remplit aussi une sorte de rôle liturgique dans toutes les cérémonies Aroé. Il est en particulier le dépositaire des interminables chants sacrés dont certains duraient jusqu'à 6 heures d'affilée, qui accompagnent ces cérémonies. Donc c'est un homme de savoir qui manipule un champ de connaissances ésotériques dont la maîtrise s'est maintenant évanouie avec la disparition des derniers chamans Aroé parmi les Bororo. Mais ce rôle liturgique n'est pas celui d'un prêtre au sens strict, car s'il guide son auditoire par des chants dans le domaine complexe des Aroé, il n'est pas pour autant un médiateur ou un intercesseur direct avec les Aroé. Il n'a pas la possibilité de reconstituer le contrat ou la charte fondatrice du collectif Bororo. En ce sens, il a moins de pouvoir que son collègue, le chaman des Bopé, qui est tout à la fois l'intermédiaire de la société vis-à-vis des Bopé, en même temps que le garant de la perpétuation et de la bonne exécution du contrat initial passé entre les hommes et les deux héros culturels Bopé. Alors, on pourrait épiloguer longuement sur le statut des chamans, de ce que Crocker appelle les chamans Bororo, tant Aroé que Bopé. Tout en exhibant certaines des caractéristiques classiques des chamans amérindiens, dans le domaine en particulier de leur pratique thérapeutique, ils ont aussi un caractère sacerdotal qui est beaucoup moins couramment répandu. Tandis que le chaman Aroé joue un rôle liturgique dans les rituels Aroé, le chaman Bopé effectue en quelque sorte sur sa personne un rite de prémisse, puisque c'est lui qui va, en absorbant une petite partie des nourritures Bopé, les décontaminer. Dans cette conversation que j'évoquais lors de la dernière leçon avec Claude Lévi-Strauss à propos du livre de Crocker sur les Bororo, où Claude Lévi-Strauss me disait que la première chose quand il est arrivé dans le village Bororo avec un tapir, avec une petite expédition, c'est la première chose qu'on a faite, c'est de prendre le tapir pour l'amener au chaman Bopé pour le décontaminer. Il m'a dit, oui, ces gens-là ne sont pas des chamans. Ces gens-là ne sont pas des chamans. Peut-être vaudrait-il mieux, au fond, les appeler des officiants rituels. Reprenons un peu maintenant cet univers dont vous mesurez la complexité. un premier point de l'opposition entre Beaupé et Haroé, un point sur lequel il faut insister, et que c'est une opposition conceptuelle et non ontologique. Cette opposition, elle, désigne deux modalités d'existence représentées par des êtres et non deux types d'êtres dont les formes d'existence seraient incommensurables. Tous les êtres du cosmos Bororo sont à la fois Beaupé et Haroé. Leur échelonnement le long d'un continuum étant le produit d'une différence de valence entre ces deux principes. Ainsi, les plus Beaupé des Beaupé, à savoir les animaux Beaupé, ceux qui constituent la nourriture Beaupé, le Beaupé ouré, ont néanmoins un principe d'identité Haroé, tandis que les animaux Haroé, les animaux de revanche et les animaux totémiques Haroé sont soumis aux contraintes de la vie organique et possèdent donc une dimension Beaupé. Même si elle prend une forme institutionnelle, visible, cette opposition entre Beaupé et Haroé, avec l'opposition entre les statuts et les fonctions des deux classes d'officiants rituels, cette opposition est un modèle théorique en réalité, en partie issu de l'imagination structuraliste de Crockett, sa grande sa maîtrise de la philosophie, puisqu'il n'est pas difficile de discerner derrière la présentation par John Christopher Crockett des Bororo, une petite teinte platonicienne. Ce n'est pas un modèle vernaculaire de la division du monde Bororo en deux classes d'êtres qui seraient nettement séparées. C'est au fond un moyen commode de subsumer sous deux catégories nommées des modalités distinctes d'existence qui renvoie bien, par ailleurs, et de façon explicite pour les Bororo, à deux champs bien différenciés de la vie collective. D'une part, les pratiques et les représentations qui concernent la catégorisation des humains et des non-humains, leur inclusion dans des classes contrastives et la transmission de leur rôle et de leurs prérogatives à l'intérieur de ces classes. D'autre part, les pratiques et les représentations qui concernent les formes d'interaction entre les êtres, notamment les relations alimentaires et sexuelles, la croissance, la sénescence, la prédation mutuelle des organismes humains et non humains, et enfin la circulation des flux vitaux entre les différents étages du cosmos. Il n'est pas difficile de voir que chacun de ces deux champs différenciés de la vie des humains et des non-humains est structuré par un régime ontologique lui aussi bien différencié. D'une part, un régime animiste dans lequel les plantes et les animaux se trouvent organisés en autant de collectifs autonomes qu'il y a d'espèces, sous la juridiction d'esprits spécifiques, les esprits Beaupé, et d'autre part, des collectifs. Et plus exactement, ce sont ces collectifs qui sont sous la juridiction des esprits Beaupé, entretiennent un rapport de prédation mutuelle avec les collectifs humains. D'autre part, autre champ de la pratique, placé sous un régime totémique dans lequel les plantes et les animaux, et parfois les mêmes que les précédents, c'est ça qui est une très grande subtilité, les mêmes que les précédents, deviennent des essences nominales, pour reprendre l'expression de Crocker, c'est-à-dire une sorte de lexique de signes incarnés tout à la fois dans des êtres en partie invisibles, les âmes des Bororo vivants et de leurs aïeux, dans des artefacts, dans des pratiques rituelles et surtout dans des prototypes de plantes et d'animaux qui viennent donner une identité propre à chacune des subdivisions d'humains et de non-humains qu'ils qualifient. Donc on n'est pas obligé de suivre Crocker lorsqu'il envisage le totémisme des clans et des sous-clans Bororo dans la perspective classificatoire et purement dénotative qu'il a empruntée à Lévi-Strauss, perspective dans laquelle les animaux et les plantes, aroés, associés à chaque groupe humain, ne seraient au fond que des étiquettes utilisant un modèle de pensée fourni par la nature, la discontinuité morphologique et comportementale des espèces, afin de conceptualiser la discontinuité sociale entre clans et sous-clans. Car les aroés bororo sont bien partie prenante des clans, des segments, et non pas de simples signes pour dénoter ces segments à la manière d'un langage symbolique. Ils en constituent à la fois le principe de continuité temporelle, les âmes des morts, et la substance concrète sous la forme de populations différenciées de plantes et d'animaux qui sont les totems claniques. La différence avec le totémisme que l'on pourrait appeler orthodoxe, le totémisme australien pour faire simple, c'est, on l'a vu, qu'il n'y a pas d'identité substantielle et comportementale entre les membres humains et non humains d'un clan totémique bororo. D'ailleurs, la nature de cette identité entre les membres humains et non humains n'est pas simple à définir. Crocker, par exemple, emploie lui-même pour qualifier cette identité des expressions tout à fait paradoxales. Par exemple, je le cite, « Le clan est perçu par les bororo comme fondé sur des substances communes. » Ah, bien, ça y est, on est dans un cas de totémisme de type australien. Mais il ajoute, « Mais qui concerne l'identité logique, non la matière physique. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette identité logique substantive ? Il semble qu'elle soit d'abord spatiale. Dans cette sorte d'empyrée platonicienne qui est le monde souterrain des aroés, toutes les essences nominales de tous les êtres visibles et invisibles existant dans le monde, y compris les essences d'êtres qui intègrent des collectifs non bororo, dont les blancs, sont présentes sous la forme d'aroé dans l'un ou l'autre des 8 secteurs correspondant à chacun des 8 clans. En portugais, les bororo glosent le terme aroé en disant que ce sont des âmes. Et ils les désignent aussi parfois comme l'esprit d'une espèce, de plante ou d'animal. Comme pour les êtres du rêve australien, donc, il s'agit bien de prototypes des êtres et des choses subdivisés en classes nommées et répartis dans des lieux séparés, bien compartimentés du cosmos. La différence, elle vient de ce que ces prototypes, bororo, ils ne s'incarnent pas physiquement dans les humains et les non-humains de chaque groupe totémique, ils cohabitent avec les âmes des morts du clan dans le secteur du cosmos souterrain aroé qui leur est assigné, et l'on doit régulièrement personnifier certains d'entre eux dans des cérémonies qui sont du reste à la charge d'un clan de la moitié alterne. Donc, s'il ne s'agit pas d'un mécanisme de genèse différencié des prototypes des humains et des non-humains, de chaque classe, quels sont les principes qui président à l'association dans un même ensemble des prototypes aroés? Malheureusement, les bororo sont peu disert sur la question. L'association entre un prototype aroé et un clan se voit légitimée par le fait qu'un ancêtre du clan, nous dit Crocker, a vu et nommé cette entité. Donc il s'agit d'un processus d'objectivation dans lequel, au contraire du totémisme australien, ce n'est pas le prototype totémique qui est à l'origine de l'être qui lui est associé dans la classe totémique, mais un membre de la classe totémique qui actualise en le nommant un être nouveau, lequel devient, par cet acte, un prototype. C'est une opération intellectuelle assez complexe, parce qu'elle est rétroactive d'une certaine façon. Pour autant, le totémisme bororo ne relève pas du totémisme classificatoire à la Lévi-Strauss, puisque, tout comme en Australie, l'ensemble des objets du monde Bororo, les plantes, les animaux, mais aussi des humains, des artefacts, des esprits, est susceptible d'être distribué sous la forme d'essence nominale entre les 8 segments totémiques. Donc on ne peut pas parler ici, comme dans le totémisme aujourd'hui de Lévi-Strauss, d'une simple transposition des écarts différentiels observables dans la nature aux écarts différentiels construits entre des groupes sociaux, puisque beaucoup des éléments composant les 8 ensembles totémiques ne sont pas des espèces qui présenteraient des discontinuités naturelles visibles. Donc, sans être parfaitement homologue au totémisme australien, le totémisme Bororo est donc bien un régime ontologique qui distribue dans des classes homogènes nommées des êtres humains et non humains associés pour des raisons a priori, parce qu'ils sont de la même sorte en tant que type logique, parce qu'ils ont été actualisés par un membre de la classe où ils sont rangés, parce que leurs prototypes résident ensemble dans les mêmes secteurs du monde. Le régime animiste Bororo, lui, il concerne les échanges d'énergie entre des groupes d'humains et de non-humains qui sont différenciés par leur corps. Chaque espèce est un collectif qui est prédateur ou proie par rapport aux autres. À l'inverse, le régime totémique concerne la transmission et la transmission de la permanence d'identités qui sont différenciées au sein d'un macro-ensemble d'humains et de non-humains qui sont découpés différemment que dans les collectifs animistes, puisque regroupés non plus par espèce de corps, comme dans les collectifs animistes, mais par espèce d'âme, c'est-à-dire par les aroé claniques. Autrement dit, le totémisme Bororo peut être vu comme une sorte d'expansion logique de l'animisme, une expansion dans laquelle, par contraste avec la situation habituelle dans l'animisme, où les êtres se différencient par leur corporéité et non pas par leur intériorité, le totémisme introduit une distinction supplémentaire entre les âmes ou les essences, aroé, qui vient amplifier la fragmentation et l'autonomie de chacune des composantes du cosmos Bororo. Fort heureusement, et ainsi qu'il en va également dans le totémisme australien, la fragmentation ontologique du totémisme est contrebalancée ici par la dialectique des échanges entre les deux moitiés et entre les deux modes d'existence. En effet, l'officiant rituel en charge de chacun de ces deux modes n'acquiert la complétude de son statut que parce qu'il est la condition de l'existence du mode complémentaire du sien. En dernière instance, c'est le chaman aroé qui rend la chasse possible et qui fonde par son action le rôle du chaman bopé comme décontaminateur dans le système animiste, de même que c'est le chaman bopé qui, par son rôle de défenseur de l'âme aroé des humains, rend légitime le travail liturgique du chaman aroé. Donc les Bororo offrent l'image de deux grilles ontologiques superposées concernant les mêmes êtres et qui sont actualisées alternativement selon les circonstances dans les rapports de prédation alimentaire et sexuelle pour ce qui est de la grille animiste, dans la transmission d'identités et de prérogatives différenciées pour ce qui est de la grille totémiste. Alors, au cours de la prochaine leçon, j'examinerai un autre cas de combinaison entre un régime totémique et un régime animiste, celui des Wayuu de la Guajira colombienne et vénézuélienne, toujours donc dans les basses terres d'Amérique du Sud, mais qui se distingue de ce cas Bororo que nous venons de voir en ce que la grille totémique s'y rapproche beaucoup plus du modèle australien, dans la mesure où une véritable identité substantive et comportementale est postulée entre les membres humains, des membres humains en tout cas, et non humains, des segments totémiques. Voilà.